Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcast In, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous nous intéressons aujourd'hui à une série de podcasts qui s'appelle « Au nom de nos ancêtres ». C'est vous qui les avez réalisés. Bonjour Aurélie Bambuc.
Bonjour.
Aurélie, les auditrices et les auditeurs de Podcasting se rappellent peut-être que vous étiez venus nous voir pour nous parler de votre documentaire télé sur Ghislaine Barnet et Roger Bambuc, vos athlètes olympiques de parents. Cette fois, vous continuez d'explorer votre histoire familiale, mais vous remontez nettement plus loin à travers donc une série de podcasts qui s'appelle « Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants ». Votre papa est guadeloupéen, votre maman martiniquaise. Vous vous entretenez dans ce podcast avec Axelle Balguéry, qui est la descendante indirecte de Pierre Balguéry Stutenberg, lequel a donné son nom à un grand cours bordelais. Un mot d'abord sur ce négociant qui a vécu à cheval entre les 18e et 19e siècles. Il n'a pas directement participé à la traite des esclaves, même s'il a eu l'intention de le faire sans y parvenir. En revanche, sa fortune et celle de son père et de sa famille, donc, sont largement dues au système esclavagiste mis en place à l'époque, c'est ça ?
C'est ça, c'était au commerce en droiture, en fait. Pierre Balguéry Stutenberg vient d'une famille de négociants qui, à l'époque de l'esclavage colonial, commerçait directement avec les colonies des Antilles. Pierre Balguéry Stutenberg a voulu armé un bateau pour faire la traite négrière, et ça s'est passé en 1815, au moment où Napoléon, qui revenait de ses 100 jours, a aboli la traite négrière. Donc le bateau était prêt à partir et il n'est jamais parti parce que c'était devenu illégal. Donc voilà, Axel est la descendante en fait précisément du frère de Pierre Balguéry Stutenberg qui s'appelle Jean-Isaac, qui était lui aussi un négociant. Et les deux frères étaient les enfants de Jean-Baptiste Balguéry qui lui était héritier d'une plantation à Saint-Domingue. Et qui dit plantation dit esclave forcément, mais c'est pour montrer qu'ils faisaient tous partie du même système et ils n'étaient pas les seuls. Et d'ailleurs, l'ensemble des Bordelais à l'époque faisaient partie de manière directe ou indirecte de ce système. Et c'est un héritage qui a beaucoup pesé sur les épaules d'Axel parce qu'elle porte encore le nom Balguéry, elle est fière de son nom, mais qu'on l'a attaqué à des moments sur ce nom-là, sur son héritage supposé, sur le fait que son ancêtre soit un négrier supposé. Alors le fait qu'il ait voulu faire la traite de négrière l'a tout de suite plongé dans la case des négriers avérés et on l'a attaqué là-dessus. Quand on a su également qu'elle descendait d'une famille qui avait hérité d'une partie d'une plantation à Saint-Domingue, là aussi on lui a demandé réparation. Donc il y avait tout un malaise chez elle, et c'est ce qui m'a intéressée quand je me suis rapprochée d'elle, parce que je savais qu'elle prenait la parole sur ces questions-là. Je savais qu'elle avait été attaquée sur ces questions-là et j'avais envie avec elle qu'on raconte cette histoire de l'esclavage, mais des deux côtés, pour le coup, qu'on se mette du même côté, mais pour raconter ce que nos ancêtres avaient fait chacun de leur côté.
Oui, parce que Aurélie, vous l'avez rapidement évoqué, mais Pierre Balguéry Stutenberg, il est finalement assez représentatif de la manière dont les notables bordelais se sont enrichis à cette époque-là grâce au commerce triangulaire, puisque les navires transportant des esclaves y ont été moins nombreux qu'à Nantes ou surtout à Liverpool, par exemple, mais la ville a notamment largement profité du produit du travail gratuit des esclaves, c'est bien ça?
C'est ça, Bordeaux a été le premier port colonial, en fait. La différence avec le port négrier, c'est comme Nantes, c'est le port qui arme les bateaux qui partent faire la traite négrière. Le port colonial, c'est le port qui profite des mouvements des marchandises entre l'Europe et les Antilles et qui s'enrichit grâce à ce système économique. Donc effectivement, Bordeaux doit sa richesse à ce système en droiture avec les colonies, et la famille Balguéry n'est pas la seule à en avoir profité. Toutes les familles bordelaises qui vivaient à cette époque-là en ont profité.
«
to be in a cubicle. I'm praying for my soul, Lord, won't you hear my song? Seeing you for the African child, but you won't listen. Now I've been on a mission, now I've been politicking, but I started a revolution, crying for my ancestors. Been locked up in a cage, my mind stay, got me thinking about putting all my brothers on the ground, bleeding for my ancestors. Preaching to the hypocrites, we do the rain dance on our way to the podium. Moving in the tidal waves, I'm moving into wind. You can feel my influence a thousand miles away. Pleading for my ancestors on the life sentence. Picture man going on about the fake dependence. They buy A, save from a land of haste to kill my kind, justifying all my ancestors. They stole my identity, limiting my ability to do a lot of miracles.
Alors, dans ce contexte, c'est-à-dire dans cette grande histoire, il y a la petite histoire de votre famille et de celle d'Axel Balguéry. Votre podcast est découpé en 6 épisodes au cours desquels on découvre toute la complexité, finalement, des racines de votre famille, mais qui, là non plus, n'est pas un cas isolé. Vous saviez que vous étiez descendante d'esclaves, mais vous avez visiblement découvert au cours de vos recherches que l'un de vos ancêtres était lui-même un notable bordelais.
Absolument, en fait, en remontant dans les branches, alors c'est du côté maternel, ma mère est née en Martinique, et de son côté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de mélange justement entre esclaves et propriétaires que du côté de mon père en Guadeloupe où il n'a que des ancêtres qui étaient esclaves. Et donc du côté de ma mère, donc dans les branches des esclaves, donc d'un point de vue recherche généalogique, c'est très compliqué de retrouver la trace des ancêtres esclaves simplement parce qu'ils ne produisaient pas de documents. Quand on achetait des esclaves, c'était des lots, c'était des matricules, ils n'avaient pas de nom. Ils n'ont eu que des noms à partir de l'abolition en 1848. Donc retrouver les ancêtres, j'ai retrouvé les ancêtres qui ont été affranchis comme ça. Et je me suis arrêtée assez rapidement parce que je ne retrouve pas, par exemple, d'acte de naissance. On n'a pas d'acte de naissance des esclaves. Donc, je me suis intéressée aux branches des propriétaires, où là, forcément, d'un point de vue des archives, on a plus d'archives. Et en remontant dans les branches des propriétaires, donc du côté de la Martinique, je voyais des origines de Poitiers, de Marseille, de Noirmoutier. Et je suis tombée sur un ancêtre qui, lui, était né à Bordeaux. Je me suis dit... Ah, je suis née au Bordelais, ça fait 8 ans que je vis à Bordeaux. J'ai un ancêtre qui venait de Bordeaux. Donc ça m'a intéressée, forcément, ça a piqué ma curiosité, j'ai voulu en savoir plus. Donc j'ai remonté, donc je suis tombée donc, sur un Vincent Dumas qui a vécu en Martinique, qui s'est marié avec une créole. Donc c'est une personne qui est née en Martinique, qui venait aussi d'une famille de propriétaires. Et son père était un magistrat à Bordeaux, en fait. Donc je suis allée fouiller, j'ai cherché dans les archives, je suis allée aux archives départementales de la Gironde en disant ben voilà, j'ai un ancêtre qui s'appelle Dumas, je cherche des réponses, je cherche à savoir à en savoir plus sur lui. Donc forcément le nom Dumas ça fait penser d'abord à Alexandre Dumas et puis c'est un nom courant. Donc voilà, c'est pas évident de retrouver le bon Dumas, mais voilà, ça m'a intrigué et puis de voir que il est le fils donc d'un notable bordelais, que sa mère était commerçante, enfin c'était venait d'une famille de commerçants et j'ai quand même pu consulter un petit peu des quelques archives qui montrent des registres de commerce en fait avec quelle famille il commerçait à l'époque et c'était la famille Gradis par exemple. Donc voilà, comme quoi c'est une histoire nuancée. Je me suis présentée à Axel en disant moi je suis descendante d'esclaves et en fait j'ignorais et j'ai découvert avec cette série que j'étais aussi descendante d'un négociant colonial bordelais, d'un propriétaire bordelais qui est venu s'installer en Martinique et qui a fait toute sa vie en Martinique, qui a eu des enfants et qui a eu, dont les enfants, ça a transmis, ça a été un de mes ancêtres. J'ai un lien avec Bordeaux.
Alors, on ne va évidemment pas tout dévoiler de votre podcast, qui sera à découvrir en description de cet épisode notamment. Simplement, vous êtes parti aux Antilles avec Axel. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Parce que j'avais envie de raconter cette histoire donc à échelle humaine, donc de partir de nos ancêtres respectifs et savoir ce qu'ils avaient fait. Donc c'est ce qu'on a fait sur la partie bordelaise. Et les Antilles, fallait savoir le fruit de ce système. Moi, c'était aller à la découverte, finalement aller sur la terre de mes ancêtres. Mais pour Axel, c'était comprendre ce dont ses ancêtres profitaient. Concrètement, à quoi ça ressemblait une plantation, à quoi ça ressemblait une habitation, à quoi ça ressemblait. Semblait découvrir les lieux de vie. On a découvert en Martinique un village d'esclaves reconstitué par un descendant d'esclaves qui avait à cœur justement d'expliquer l'histoire et qui montre les conditions horribles dans lesquelles vivaient les esclaves à l'époque. Il a reconstitué des cases, il a reconstitué toutes les chaînes qu'il y avait. Enfin voilà, il a voulu montrer vraiment la violence qu'il y avait à cette époque-là. Mais c'est une démarche qui a beaucoup marqué Axel, parce que c'est un monsieur qui était tout en apaisement. Lui, il avait une volonté d'expliquer les choses, pas d'en rajouter pour polémiquer, expliquer les choses pour que les enfants, en pensant aux enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Et ça, ça a beaucoup touché Axel d'avoir cet aspect pédagogique, cet aspect de transmission, parce qu'on est toutes les deux mères de famille et qu'on a envie de transmettre une mémoire apaisée à nos enfants.
Aussi d'autres personnes qui interviennent dans ce podcast, notamment la fille et la nièce d'Axel Balguéry, Zoé et Thelma. Vous êtes vous-même maman, c'est une affaire de transmission ce podcast.
Ah, c'est tout à fait une affaire de transmission. J'ai chassé les sons et de la fille d'Axel Zoé, de sa nièce Thelma, moi de mes enfants, à leur demander un petit peu ce que ça leur évoquait l'esclavage. Mais oui, parce que c'est important de savoir, comme dit l'adage, le proverbe, mais c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et mes enfants, quand ils commençaient à m'interpeller en lisant des bandes dessinées, en voyant que le personnage noir avait le mauvais rôle, que le personnage blanc avait le bon rôle, et à me dire que c'était une BD raciste, voilà, j'avais envie de leur expliquer et de leur dire d'où ça venait, pourquoi on avait cette image-là. Du noir, il est comme ça, et du blanc, il est comme ça. Ben, ça remonte à la période de l'esclavage. Il faut expliquer cette période pour que tombent tous ces clichés, et il serait temps qu'ils tombent enfin au XXIe siècle.
Dans le dernier épisode, on entend notamment Axel rappeler qu'elle n'est pour rien dans ce qu'ont fait ses ancêtres. Vous rappelez-vous même n'avoir jamais eu honte d'être descendante d'esclaves ? Ce podcast est aussi là pour clarifier ces points-là, aider à la réflexion aussi sur ce sujet ?
Bien oui, parce que la honte, Axel ne l'a jamais ressenti, mais on a cherché à lui faire ressentir en la ramenant à chaque fois à cet ancêtre présumé négrier. La honte, de mon côté, c'est surtout ce dont mon père me parlait à son époque, sa génération. C'était une honte de se dire descendant d'esclaves, c'était un tabou, mais parce qu'on est passé sur une longue période où il fallait pas en parler, mais parce que ça faisait partie du système. Une fois l'abolition établie, on oublie tout. C'est vous avez vécu comme ça, effectivement, vous avez été esclave, etc. Maintenant, on vous libère, on oublie tout, donc on oublie tout. Il y avait une chape de plomb qui a perduré de génération en génération, et il fallait que ça s'arrête, et pour que ça s'arrête, il fallait que les choses soient expliquées. Et c'est effectivement le but de ce podcast, c'était d'expliquer les choses, de rencontrer des historiens, de rencontrer des personnes concernées et de rendre compte de nous, de l'état dans lequel ça nous a mis, parce que ce podcast vient compléter en fait un documentaire qui porte le même nom, Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants. Mais l'avantage du podcast, c'est que par le son, voilà, j'ai réussi à avoir plus de confidence de la part d'Axel, parce qu'on est forcément plus impressionné par l'image, par la caméra, et qu'avec mon petit enregistreur, moi j'allais après les tournages recueillir un petit peu ses impressions. Donc ça donne une parole un peu encore plus libérée et plus dans la confidence, quoi.
Thank you. parler des moments où ça a été pesant pour elle, pour Axel, justement ce nom, ça a été le cas notamment au moment où certaines associations comme le Conseil représentatif des associations noires ont engagé cette démarche finalement de commencer à demander réparation aux descendants, ce qui d'ailleurs est une démarche très différente de celle de Mémoire et Partage et de Carfa Diallo, hein, dont il a souvent été question dans Podcasting, qui lui considère qu'il n'y a pas du tout cette culpabilité ou cette responsabilité à faire peser sur les descendants ou descendants présumés.
Bah oui, elle a été attaquée, elle, tout a commencé pour elle en 2014 parce qu'elle s'est présentée à des élections municipales dans sa commune de Tresse et que 4 jours avant le premier tour des municipales, son adversaire politique organise une conférence sur le passé négrier de Bordeaux à Tresse. Donc c'était une manipulation politique pour la déstabiliser, mais c'est ça qui l'a éveillée, elle, à cette histoire-là. Et concernant les réparations, quand je lui ai appris que le père, que son ancêtre direct avait hérité d'une partie d'une plantation à Saint-Domingue, on est allé à un colloque sur les indemnités et réparations liées à la traite de l'esclavage qui s'est tenu à Bordeaux en octobre 2021. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'elle accepte déjà de venir parce que je lui ai montré la somme. Bon, c'était de 2600 francs. On a rencontré une chercheuse qui a travaillé sur cette base de données et qui a tout de suite lui a expliqué votre ancêtre n'a pas pu se refaire une fortune avec ça. C'était une partie, un neuvième, deux. Et voilà, elle a eu un déclic à ce moment-là. Et de se dire qu'effectivement, elle est responsable en rien. Et réparation, qu'est-ce que je vais réparer? Qu'est-ce que je vais avec ces 2600 francs? Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que mon sentiment, c'est que j'avais l'impression que le fait qu'elle accepte de venir à ce colloque, qu'elle s'intéresse à cette question, pour moi, c'était une réparation, finalement. La réparation, c'est pas financier, c'est reconnaître ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé et avancer avec ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qu'elle a fait Axel. Et c'est en ça que je la remercie d'avoir accepté de participer à mon projet. Et pour moi, voilà, la réparation, elle est là.
Aurélie, vous avez consacré de longs mois à ces recherches et à ce dialogue. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on en retienne ?
L'apaisement. Qu'on a fait ça en tout apaisement avec Axel. Moi, à aucun moment, je suis venue l'attaquer en lui disant « Tes ancêtres ont fait ça à mes ancêtres ». Non, moi, ce que je lui ai dit, c'est « Nos ancêtres n'ont pas vécu du même côté de l'histoire, mais ont vécu la même histoire. Donc, on va la raconter ensemble. » Et donc, retenir cette histoire de l'esclavage à travers nos ancêtres, que c'est une histoire tout en nuances, finalement, que ça sert à rien d'opposer par les races, par les couleurs, par les statuts sociaux. C'était un système, finalement, et c'est au niveau d'un État que ça se joue et pas au niveau des individus.
Merci beaucoup Aurélie Bonbuc d'être venue au micro de Podcasting une nouvelle fois. Je rappelle le titre de votre série de 6 podcasts, Au nom de nos ancêtres. Il est à retrouver sur le site de France Télévisions. On mettra bien sûr le lien en description. Et puis on encourage vraiment à l'écoute parce que je vous le disais tout à l'heure, vous racontez la petite histoire de vos deux familles, mais elles s'inscrivent évidemment dans la grande histoire et sans doute ont-elles une portée universelle qui toucheront beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Enola Richer, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.